Les juges ont donc donné tort à deux syndicats du Gruyère qui avaient tenté d'inscrire le terme au registre américain des marques certifiées. Vous écoutez RFI, il est 9h10 ici à Paris.
Radio G, www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent.
Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Dans son dernier roman « Ceci n'est pas un fait divers » paru chez Julliard en janvier 2023, Philippe Besson prend le point de vue des enfants, victimes collatérales du meurtre de leur mère, perpétré par leur père. Quel sera le combat de Léa et son frère pour faire face au chagrin, à la colère, mais aussi à la culpabilité qui est la leur? Comment vont-ils pouvoir se reconstruire et poursuivre leur vie? Selon les propos, ce livre a trouvé sa source dans sa rencontre avec un jeune homme amateur de ses livres et qui, au fil du temps, lui a livré son histoire. Le romancier va prêter sa voix à ses enfants, ceux que l'on n'entend pas, ces victimes qui tentent de se faire oublier et doivent vivre avec ce qui est de l'ordre de l'impensable. Écoutons-les. Au téléphone, d'abord, elle n'a pas réussi à parler. Elle avait pourtant trouvé la force de composer mon numéro. Trouvé aussi la patience d'écouter la sonnerie retentir 4 fois dans son oreille, puisque j'étais occupée à je ne sais quoi à ce moment-là, et que j'ai décroché à la dernière extrémité. Finalement, elle m'avait entendu crier son prénom dans une sorte de précipitation, car j'étais tracassée à l'idée d'avoir manqué l'appel, mais au moment de s'exprimer, aucun son n'est sorti. Aucun. Comme si soudain elle était devenue muette, et en réalité c'était ça, exactement. Elle était devenue muette sous la violence du choc. Moi, je ne savais rien du choc, je savais juste que ma petite sœur m'appelait, ce qu'elle ne faisait qu'en de très rares occasions. On ne se parlait pas beaucoup, et généralement c'était en tête à tête, lorsque je rentrais le week-end, et si j'étais un peu surpris, je n'étais pas vraiment inquiet. L'inquiétude a déboulé quand j'ai entendu son souffle seulement, dans le téléphone, la respiration de quelqu'un qui suffoque, voilà, ça ressemblait à une suffocation. Alors, j'ai recommencé à m'exclamer, j'ai dit « Léa, Léa, c'est toi ?» et pas de réponse. J'aurais pu penser « elle me fait une blague » ou « elle a appuyé sur la touche correspondant à mon contact par inadvertance et elle ignore que je l'entends, ce sont des choses qui arrivent ». Mais je n'ai pas pensé ça. J'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre au bout du fil, Une personne qui lui aurait subtilisé son portable ou qui téléphonerait à sa place, parce qu'elle en serait empêchée, mais je ne l'ai pas imaginé. J'étais certain que c'était bien elle. Ce souffle, même court, même déformé, était le sien. Ça ne faisait aucun doute. Je ne pouvais pas me tromper. Ça avait à voir avec l'intimité. C'est même la preuve de l'intimité, ce genre de certitude. Comme elle ne disait toujours rien, j'ai insisté, avec de la douceur cette fois-ci, en gommant toute angoisse, en n'y mettant aucune exaspération non plus, à croire que j'avais deviné qu'il fallait être gentil. Et elle a enfin pu s'exprimer. Elle a murmuré.
Il s'est passé quelque chose.
Je me souviens très bien de la sensation de glace le long de mon échine. J'étais assis sur le tabouret devant la petite table de cuisine de mon studio et je me suis aussitôt redressée sous l'effet du froid. J'ignore pourquoi ce souvenir est si précis quand tant d'autres demeurés flous ont exigé des efforts considérables pour que je parvienne à les reconstituer. Il faudrait que j'en demande l'explication à ma psy. Je suppose que certains instants décisifs sont inoubliables et parfois on sait, tandis qu'ils se produisent, qu'ils sont en effet décisifs. Je n'ai pas demandé « Il s'est passé quoi ?» J'en aurais eu largement le temps puisque, avant de poursuivre, Léa a laissé s'écouler plusieurs secondes, au moins une dizaine. Les secondes qui lui étaient nécessaires pour reprendre le dessus et réussir à nommer l'innommable. Je devais soupçonner que ça ne servait à rien de formuler une telle question, car ma petite sœur allait parler désormais, malgré sa voix anémiée, malgré son souffle resserré. Elle était l'unique détentrice d'une vérité et elle allait la révéler. Ça lui appartenait. Elle avait téléphoné dans ce seul but. Me choisir s'était imposé comme une évidence. Elle avait été paralysée au tout début, puis en proie à une vive émotion, mais elle en était capable. Elle dirait ce qu'elle avait à dire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit
« Papa vient de tuer maman ». Léa avait 13 ans, moi 19. On n'était pas taillé pour une calamité de cette nature, de cette ampleur. Personne ne l'est, évidemment. Sauf que nous, ça nous est tombé dessus. D'autres que moi auraient hurlé un « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» demandé qu'on répète pour s'assurer d'avoir compris. En fait, ceux qui demandent qu'on répète ont compris. Simplement, ils obéissent à un réflexe pavlovien. Ils n'y croient pas. Ils ne peuvent pas y croire ou ils sont dans une forme de déni. Moi, je n'ai pas hurlé, pas protesté. En revanche, j'ai annoncé un...
Comment ?
Exiger des éclaircissements, chercher à connaître les circonstances exactes, la façon dont les choses s'étaient produites. C'est cela qui est venu. Ça ne pouvait pas demeurer aussi général, aussi colossal. Il fallait des détails, du concret, du substantiel, du tangible. Il fallait des frontières, des lisières. Léa n'a pas répondu. J'ai mesuré trop tard qu'on ne devait pas poser ce genre de questions à une enfant de 13 ans, encore moins à la fille de la victime. Alors, j'ai réduit mes exigences, baissé d'un ton et émis l'hypothèse qui m'a paru la moins effroyable, celle en laquelle je plaçais un dernier espoir sans y croire pourtant.
Il n'a pas fait exprès.
Elle s'est contentée du strict minimum. Si. Ainsi. Calme, définitif, qui nous envoyait droit en enfer. Là, je me suis tue à mon tour, abasourdie, assommée par la nouvelle, écrasée par elle. Il faut le reconnaître, c'était tellement énorme et tellement inattendu. Encore aujourd'hui, quand il m'arrive de convoquer les mots murmurés par Léa pour les réentendre dans ma tête, ou d'ailleurs, ils me parviennent avec une acuité confondante et une facilité désarmante, je continue d'être stupéfiée et démolie. Je reste éblouie qu'ils aient été prononcés un jour. Ensuite, j'ai été dévastée, je crois. Oui, c'est un abattement qui s'est produit juste après. Ma mère était morte. Ma mère qui comptait tant, que j'aimais. Le vilain mot, d'ailleurs, je ne l'avais jamais prononcé, idiot que j'étais, et dont j'allais être privée pour toujours, alors que j'entrais tout juste dans l'âge adulte. Cette nouvelle allait comme on jette une friture dans de l'huile bouillante. Cette image déroutera sans doute, elle est cependant la plus juste. Le chagrin m'a envahi. Il n'a pas provoqué de sanglots, ni même de larmes. La stupeur, ça stoppe les épanchements. Mais il s'agissait bien de chagrin. Il s'agissait bien d'affliction, de désolation, appelez ça comme vous voulez. J'ai aussi éprouvé un sentiment d'horreur. Ma mère avait succombé à une mort violente. On croit toujours que la mort de ses parents surviendra tardivement, calmement, et quand on aura eu le temps de s'y préparer. On redoute la maladie. On écarte l'hypothèse de l'accident, par manque d'imagination ou par superstition. On n'envisage jamais le meurtre, jamais l'exécution. Ça n'arrive que dans les films ou dans les journaux à scandale. Puis a surgi l'indignation. Ma mère venait de perdre la vie alors qu'elle se trouvait sans défense, ou en tout cas qu'il lui était impossible d'avoir le dessus. Elle était une femme menue, quand mon père était une force de la nature. Face à lui, elle n'avait pas la moindre chance de s'en sortir. Qui plus est, l'apprendre par téléphone rendait le tout encore plus irréel et ahurissant. J'étais perdue, absolument perdue. C'était ma faute aussi, je m'étais beaucoup éloignée, et depuis longtemps, je devrais en reparler. Quand je raconte, on pourrait croire que cet enchaînement d'émotions a duré longtemps, mais non, à peine une poignée de secondes. C'est extraordinaire tous les états qu'on peut traverser en une poignée de secondes. La respiration de ma petite sœur dans le combiné a tout renvoyé au second plan. Il y avait des urgences à gérer et j'étais celui qui pouvait, qui devait les gérer. N'est-ce pas aussi pour cela qu'elle m'avait appelée ? Dans la cuisine.
Seule, avec maman. Elle a dit maman, comme si notre mère était encore en vie, encore une personne vivante, comme si rien n'avait changé. J'ai dû réprimer un sanglot. Puis j'ai visualisé la scène. J'ignorais toujours les circonstances, mais il n'était pas difficile d'imaginer le cadavre au sol, du sang autour. Quand je dis pas difficile, qu'on ne se méprenne pas. Évidemment, c'était horrible et même insoutenable, mais ça relevait de la déduction, du raisonnement, d'autant que je connaissais parfaitement la topographie des lieux. J'ai donc vu Léa près du cadavre de notre mère. Qu'on me permette de m'arrêter sur cette étrangeté. La scène, je ne l'ai jamais vue pour de bon. C'est pourtant elle qui continue de me hanter. Et papa, il est toujours là ?
Non, il a foutu le camp, je ne sais pas où.
De nouveau, j'ai imaginé. C'était ma façon de corriger mon éloignement, mon absence, ma défection à l'instant le plus considérable. Il avait reculé d'abord, sans doute un peu hagard, avant de décamper comme un trouillard, un lâche. Peut-être n'avait-il même pas claqué la porte en sortant. Dans l'allée de la maison, il avait tangué tel un homme ivre. J'ai immédiatement effacé cette image, parce qu'elle atténuait la portée de son geste. « Tu es absolument sûre que maman est... »
Oui.
Je ne nourrissais guère d'espérance, mais quand on n'a jamais été en présence d'un cadavre auparavant, on peut se tromper, non ? Les coups portés, s'il s'agissait bien de coups, auraient pu ne pas être fatals. Sauf que le « oui » a été net lui aussi. Léa avait beau être bouleversée, son intelligence était intacte. J'apprendrai qu'elle avait pris son pouls. Encore une vision insoutenable. Et dans cette tempête, les faits établis, les vérités simples constituaient pour elle une boussole. J'ai conscience de ne pas avoir terminé ma question, de ne pas avoir prononcé le terme fatidique. De cela aussi, j'en suis certain. Après coup, je me suis demandé si j'avais buté sur la réalité, à la façon d'un cheval qui renonce devant l'obstacle, si j'avais manqué de courage, ou si j'avais souhaité ne pas rajouter de la violence. Je crois maintenant que Léa m'a coupé, que c'est elle qui a choisi de me protéger. Toi, tu n'as rien ?
Non.
Il ne s'en était pas pris à elle. J'ai failli ajouter « Dieu merci », sauf qu'il n'y avait aucun Dieu à remercier, et s'il en existait un, il était plutôt à blâmer. Il serait temps plus tard de déterminer si mon père l'avait menacé, s'il avait tenté quelque chose, ce qui ajouterait encore à l'effroyable. Mais ce qui importait, c'est qu'elle fût saine et sauve. Ce serait l'unique bonne nouvelle de cette journée d'apocalypse. Ne reste pas dans la cuisine, s'il te plaît. Monte dans ta chambre. Ferme-la à clé et n'en sors pas. Il était fondamental de la mettre à l'abri. et surtout de la préserver du spectacle terrible qui s'offrait à elle. Si moi j'étais déjà en proie à l'effarement et à la panique, alors dans quel état pouvait-elle se trouver? D'autant qu'elle avait peut-être assisté à la mise à mort, mais cela je n'ai pas osé le lui demander. On en parlerait les yeux dans les yeux. Ou « va chez Madame Bergeon si tu préfères ». J'improvisais. Rester dans la maison, même porte close, pouvait sembler rassurant, mais se révéler dangereux si notre père revenait. Se réfugier chez la voisine offrait davantage de sécurité. À moins que le meurtrier, c'est ainsi qu'il devait être désigné, n'est-ce pas, ne rôde encore dans les parages. Elle a dit
« Je préfère ma chambre ».
Un univers rassurant pour elle, un cocon, un endroit où il ne pouvait rien lui arriver. Cela étant, dans une cuisine non plus, il n'est pas censé arriver quoi que ce soit. Dans une cuisine non plus, on n'est pas censé se faire tuer. J'ai répondu « Comme tu voudras ». J'ai poursuivi. Je préviens la police. Ils seront là rapidement. Et moi, je prends le premier train. Elle a dit
« D'accord ».
J'ai ajouté « Je te rappelle quand je serai dans le TGV. Je ne te laisse pas, hein. Je ne te laisse pas. » Elle a redit
« D'accord ». Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le tabouret. Je devais pourtant m'occuper des gendarmes, de mon billet. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de chercher dans ma mémoire la dernière fois que j'avais vu ma mère en vie. C'était 3 semaines plus tôt, elle m'avait raccompagnée au train. J'ai essayé de me rappeler ses derniers mots et je n'y suis pas arrivée. C'était sans doute des mots tout bêtes, quelque chose comme « Tu as vérifié que tu n'as pas oublié tes clés ?» J'ai tenté de reconstituer la toute dernière image. Dans mon souvenir, elle se tenait sur le quai, levait la main dans ma direction pour me dire au revoir. J'avais dû lui répondre avec le même signe de la main, mais je n'en étais pas certain. Mon imprécision, ce flottement m'ont mortifié. J'ai senti que je ne devais pas me redresser tout de suite. J'avais besoin de recouvrer mes esprits pour ne pas être victime d'un éblouissement et chuter, comme après une prise de sang. Et j'avais besoin de penser, de sortir de l'indépassable folie de la brève conversation avec ma sœur, de reprendre une forme de contrôle. J'ai alors prononcé les mots à voix haute et en les détachant. Mon père vient de tuer ma mère. C'est ça qui s'est imposé. Prononcer les mots à voix haute avec l'intention d'établir leur consistance, leur matérialité, de leur conférer un sens. Avec l'espoir irrationnel de mettre également leur teneur à distance, au moins un peu. Cependant, c'est un résultat très différent que j'ai obtenu. Devant la table minuscule, je me suis rendu compte que si j'étais choqué, je n'étais peut-être pas complètement surpris. J'ai pensé, ça devait arriver. Ou plutôt, ça pouvait arriver. Pourtant, jamais auparavant je n'avais formé cette prédiction. Jamais. Alors quoi? Alors elle devait être tapie dans mon inconscient, et voilà qu'elle surgissait. Trop tard. Mais non. J'ai chassé l'idée, ça n'était pas le moment d'être rattrapé par des trucs pareils, et je me doutais que ça reviendrait, que j'aurais à m'en saisir. D'abord paré au plus pressé. Normalement, j'aurais dû composer le 17. À la place, j'ai cherché et trouvé le numéro de la gendarmerie de Blanquefort. Pourquoi? Parce que je me suis dit, au 17, je vais tomber sur un inconnu, enfermé dans un bureau je ne sais où, installé devant un standard, avec un casque sur les oreilles, quelqu'un qui va suivre une procédure, un protocole, qui va me demander d'épeler, de répéter, qui va mettre ma parole en doute. J'ai songé, on va perdre du temps, et je ne supporterai pas d'être traité avec désinvolture ou suspicion. J'imaginais qu'ils recevaient beaucoup d'appels et que leur premier réflexe, c'était de trier, d'éliminer, parce qu'il devait tomber sur pas mal de cinglés ou de gens qui encombraient la ligne avec des incidents sans importance. J'ai voulu entendre une vraie personne au bout du fil, qui connaîtrait la ville, qui connaîtrait ma mère peut-être. C'est une femme qui m'a répondu, plutôt jeune d'après le son de sa voix. Je lui ai balancé toute l'histoire d'une traite. Elle a dû être un peu effarée, mais a tout de même tranché « On envoie une équipe sur place tout de suite ». Quand j'y repense, elle aurait pu envisager que je sois un sinistre plaisantin. Mais non, elle m'a cru, sans paraître hésiter. Je présume que mon affolement l'a convaincu, ainsi que la somme de détails que j'ai fournis. Nom, adresse, téléphone, description des lieux. J'ai dit aussi, vous voyez la rue Poumeau de Lille ? L'arrêt de bus République, c'est juste derrière. Souvent, ce sont des images prosaïques qui rendent plausibles les récits les plus improbables. Dans la foulée, j'ai filé à Montparnasse sans même acheter de billet. Finalement, ni jeté d'affaires au fond d'un sac. Dans le hall, j'ai avisé le tableau d'affichage. Un train partait pour Bordeaux 5 minutes plus tard. J'avais de la chance. Cette pensée fugace m'a immédiatement semblé lugubre. J'ai repéré le quai, grimpé dans la première voiture au moment où on annonçait la fermeture des portières. Si un contrôleur entendait me coller une amende, je pourrais toujours faire valoir que ma mère venait de mourir, que mon père l'avait tué. Vous croyez qu'il se serait entêté ? Le drame a ses avantages, certes dérisoires. Je n'ai pas été contrôlée. On quittait à peine Paris quand est apparu sur l'écran de mon téléphone un numéro inconnu. J'ai aussitôt décroché. Un commandant de gendarmerie s'est présenté sans que je retienne son nom. Je l'ai prié de patienter, le temps de m'installer entre deux voitures. Il a commencé par vérifier mon identité, indiquer qu'il faisait suite à mon appel et se trouvait sur les lieux. Il avait une voix grave, neutre, professionnelle, et soudain la voix a changé quand il a dit « Je vous confirme le décès de votre maman, je suis désolé ». Je me suis demandé si dans les écoles on apprend aux officiers à adopter un ton plus doux, plus compassionnel quand il s'agit d'annoncer une nouvelle de cette nature, ou si l'expérience lui avait enseigné une forme de délicatesse, ou encore si malgré les années de service, justement, il ne pouvait pas toujours retenir une certaine émotion. Moi, en tout cas, j'avais les yeux rivés sur le symbole d'une porte de toilette de train lorsque la mort de ma mère est devenue une information officielle, répertoriée, incontestable. C'était grotesque et c'est inoubliable. Reprenant mes esprits, je l'ai interrogé au sujet de Léa. Recouvrant un phrasé impartial et un vocabulaire procédural, il m'a assuré qu'elle avait été prise en charge et mise en sécurité. J'ignorais quelle forme prenait cette prise en charge. L'avait-on installée à l'arrière d'une voiture de gendarmerie ? L'avait-on confiée à un médecin, un pompier ? Et puis, baissant la voix, alors que personne ne pouvait m'entendre, j'ai posé la question « Comment maman est-elle morte ?» Il a esquivé. Vous ne préférez pas être sur place pour que je vous communique ces informations ? J'ai compris que ce qu'il avait à m'apprendre était atroce. J'ai insisté et il a cédé, recourant néanmoins à une formule policière réglementaire pour en atténuer la portée probablement. Utilisation d'une arme blanche. Ma mère avait donc été poignardée. À de multiples reprises, ma mère avait été lardée de coups de couteau.
Je n'ai pas conservé de souvenirs précis du trajet. Les paysages ont défilé, ils m'étaient familiers. J'empruntais ce train régulièrement à l'époque, mais je ne les ai pas regardés, ou j'étais devenue aveugle. C'était du vert en mouvement, ou bien des champs à perte de vue, rien qui puisse fixer l'attention. Je me rappelle juste une femme,
absorbée par la lecture des magazines, et plus loin, une fillette turbulente, et avoir été agacée par des exclamations, ça bougeotte. Je m'en suis voulu de mon agacement. J'aurais dû au contraire être émerveillée par cet enfant qui ignorait tout de la fragilité de nos vies et qui se moquait des dramas alentour. J'ai placé mes écouteurs dans mes oreilles, écouté les tubes des Pet Shop Boys, de la pop sucrée, en totale contradiction avec la situation, mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était la musique et la distraction. J'ai échangé des SMS avec Léa. Elle m'a confirmé qu'un gendarme ne la quittait pas. Je tenais ma promesse. Je la rejoignais. Je serai bientôt avec elle. Je pourrai la serrer dans mes bras. Pour autant, je n'ai pas écrit que j'allais la serrer dans mes bras. Il ne fallait pas donner l'impression de céder à la commisération ou de dérégler nos pudeurs. C'était d'ailleurs ridicule. Les circonstances étaient tellement exceptionnelles qu'elles auraient justifié, sans que nul n'y trouve à redire, une remise en cause de nos habitudes. Il faut croire que, même au cœur de l'effroyable, de l'impensable, quelques réflexes demeurent. Tout à ma hâte de la retrouver et à ma culpabilité, déjà, de l'avoir laissée seule face à l'événement, le temps aurait pu me sembler long et curieusement, il n'en a rien été. Je ne l'ai pas vu passer parce qu'il était abstrait, confus, à la fois tumultueux et embrouillé. C'était un mal pour un bien. Ce brouillard s'expliquait aisément. Je ressassais. Je me demandais pourquoi mon père avait tué ma mère. Comment il avait pu en arriver là. Et comme dans les rêves ou les cauchemars, j'étais incapable de passer au stade suivant. La question se répétait encore et encore, formait une boucle parfaite et insupportable. À la gare Saint-Jean, je n'ai pas pris le tram comme je le faisais chaque fois. J'ai sauté dans un taxi. Qu'importe si j'y abandonnais mon argent de la semaine ou presque, je ne voulais pas perdre de précieuses minutes. La voiture m'a bêtement renvoyé à l'enfance, aux sensations de l'enfance, quand on était assis à l'arrière, Léa et moi, et que les parents étaient crispés à l'avant. Lui, parce que ça n'avançait pas, ça n'avançait jamais, à croire que les embouteillages lui étaient réservés, que les gens faisaient exprès de s'agglutiner ou de conduire mal simplement pour le faire pulminer. Elle, parce qu'elle avait sans cesse la peur d'avoir oublié quelque chose, prendre son porte-monnaie, fermer la maison à clé, ou parce que la perspective des courses au centre commercial l'angoissait. C'était pourtant une chose ordinaire, mais elle redoutait de ne pas avoir tout inscrit sur sa liste. Elle redoutait les caddies qui s'entrechoquent, même quelquefois les annonces inopinées au micro qui proposaient des réductions exceptionnelles. En fait, quand j'y songe, elle était souvent apeurée. Dans le taxi, je me suis dit qu'on n'y avait pas prêté suffisamment attention, que ça venait forcément de quelque part. Maintenant que j'ai interrogé les proches, la famille, les amis, les voisins, les collègues, sollicité les avocats, les experts, exploré les dossiers judiciaires, écouter attentivement les propos des victimes et des meurtriers, lu des choses sur Internet, j'ai acquis une certitude, ça venait de lui, mon père.
Quand je suis arrivée sur place, plusieurs véhicules de gendarmerie étaient stationnés et le pavillon cerné par un périmètre de sécurité derrière lequel se tenaient des badauds. Les gens raffolent des faits divers. Ils ralentissent sur le bord des routes lorsqu'ils parviennent à la hauteur d'une collision qui vient de se produire. Ils tiennent à être aux premières loges parce que c'est un spectacle. Là, ils scrutaient les visages des enquêteurs, interprétaient chacune de leurs mimiques, attendaient de voir sortir un brancard, un cadavre. Ils se désolaient, partageaient leur effroi, mais n'auraient pour rien au monde quitté leur poste d'observation. Ce n'était pas de la compassion, en tout cas pas seulement, c'était du voyeurisme. Dans l'assistance, j'ai repéré deux ou trois visages connus. Une colère m'est venue.
C'était de ma mère qu'il s'agissait. N'avait-il donc aucune pudeur ? Cette colère s'est dissipée quand le commandant s'est avancé vers moi pour me permettre de franchir la barrière de sécurité. Pierre Verdier, il faut dire quelque chose de lui. Un homme intègre. Voilà la première impression qu'il m'a faite. Probablement à cause de sa rectitude, de ses cheveux blancs, de ce sens du service public qui émanait de lui. Il y a des gens comme ça. Vous avez l'impression qu'ils sont là pour vous assurer que tout ira bien. C'était ça, Pierre Verdier. Ça ne disait rien de sa compétence, et je pouvais me tromper du tout au tout. Mais enfin, j'ai pensé, on est entre de bonnes mains. J'ignorais alors que parfois des gendarmes passent à côté de l'essentiel, que parfois ils n'accordent pas aux cris de détresse l'attention qu'ils méritent. Cette confiance dont je le gratifiais d'emblée n'avait pas tellement d'importance. Ma mère était morte et on savait qu'il l'avait tuée. Il n'y avait pas de mystère à élucider, pas d'enquête à conduire. Juste un meurtrier à rechercher, puisqu'à ce moment-là, mon père s'était volatilisé dans la nature. Sauf que dans ces instants où on est si démuni et si bouleversé, la première main tendue, on la saisit. La première voix apaisante, on l'écoute. Il m'a présenté de nouveau ses condoléances, conduit sur le côté du pavillon, loin des curieux, demandé si j'avais besoin de quelque chose. Et parce qu'il semblait gagner du temps dans cette conversation lente et presque à voix basse, j'ai soudain pris conscience que je ne serais pas autorisée à entrer. Ce qu'il m'a confirmé aussitôt, c'est une scène de crime, vous comprenez, et votre mère se trouve encore à l'intérieur. En revanche, on vous demandera de reconnaître officiellement son corps quand elle aura été transportée à la morgue. Je suis tombée sur mes genoux, littéralement. Il y a eu soudain une clameur dans l'assistance. Certains avaient dû me voir chuter, voir le commandant s'efforcer de me remettre sur pied, un de ses subordonnés à courir pour lui prêter main forte. Une fois relevé, j'ai aperçu de la poussière sur le bas de mon pantalon, je l'ai frotté machinalement. Ces détails demeurent très précis dans ma mémoire. Tout me semblait inaccessible à la compréhension, tout avait l'air de se passer dans une brume, et malgré tout, je n'ai pas oublié ce geste, dissiper la poussière sur le bas du pantalon. Pas oublié non plus le murmure général. J'ai protesté. Je voulais voir ma mère, c'était inhumain de me le refuser. Le commandant a conservé son sang-froid. On ne pouvait pas pénétrer sur le lieu d'un meurtre, pas risquer de l'endommager. Une enquête était ouverte, elle emportait tout. La procédure devait être observée à la lettre. Il était désolé, mais c'était ainsi. Et pour que je montre bien dans le crâne que tout avait changé, il a précisé, « De surcroît, on posera des scellés sur la maison, vous allez devoir vous trouver un autre hébergement. » J'ai dévisagé quelques instants, je n'étais plus en colère, la colère s'était subitement dissipée. Je venais de comprendre que oui, en effet, plus rien ne serait pareil, que notre vie appartenait désormais aux faits divers, qu'elle relevait de la police, de la justice, que nous n'avions plus notre mot à dire.
Léa, au moins, je peux ?
Pierre Verdier a acquiescé.
Votre voisine a proposé de l'accueillir, mais elle devra se présenter rapidement à la gendarmerie. Nous avons besoin de l'interroger. Elle est le seul témoin.
À cette seconde, j'ai su. J'ai su qu'elle avait tout vu, que ma sœur avait vu sa mère être assassinée par son père. J'ai aussitôt pensé. Combien d'années seront nécessaires pour qu'elle surmonte ce traumatisme, pour qu'elle remonte de ses profondeurs ? Et d'ailleurs, était-ce juste une question de temps ?
j'ai ressenti une immense compassion et une immense douleur. Je ne sais plus dans quel ordre. Et puis, j'ai tout chassé. Je devais garder les idées claires. J'ai enchaîné avec un étrange débit de mitraillette. Je pourrais l'accompagner, ma sœur, au poste. L'homme en uniforme a hésité.
Officiellement, vous n'êtes pas un témoin et je ne voudrais pas que vous l'influenciez dans sa déposition, même malgré vous.
J'ai supplié de nouveau. Elle est mineure et ça va être tellement dur pour elle. Ce serait mieux que je sois à ses côtés. Il a accédé à ma requête d'un hochement de tête. J'ai alors marché en direction de la maison des Bergeons, identique ou presque à celle de mes parents. Nous habitions une zone pavillonnaire. Tout avait été construit au même moment. Au milieu des années 1970, tout se ressemblait, y compris le jardin devant. Oui, c'était la même maison. Mais dans celle-ci, personne n'était mort. Personne n'avait été tué. Je me suis dit, c'est comme la foudre. Elle tombe sur un arbre et épargne celui juste d'à côté. C'est une question de fatalité ou de chance. Pourtant, le hasard n'avait sans doute pas sa place dans cette histoire. Et si je le devinais, je refusais encore de le formuler. J'ai aperçu Léa. Elle se tenait debout derrière la fenêtre du salon. On aurait pu croire, puisqu'elle scrutait notre domicile, qu'elle ne voulait pas perdre une miette de ce qui se passait ou qu'elle était hypnotisée par le balai des gendarmes, le rouge du camion des pompiers. Il n'en était rien. Je connaissais ce regard. C'était son regard d'introspection, de retranchement du monde extérieur. Elle ne distinguait rien. D'ailleurs, elle ne m'a pas vu approcher, sinon elle m'aurait fait un signe. Elle aurait peut-être même souri. Non, à coup sûr, elle était en train de reconstituer la scène à laquelle elle avait assisté. Elle était assaillie par ces images, envahie, assiégée par elles. Je l'ai supposée à la terreur que j'ai lue dans ce regard lorsque j'ai été au plus près de la fenêtre. Une terreur monumentale. J'ai prononcé son prénom assez fort pour qu'elle s'extraie de son cauchemar et découvre qu'elle n'était plus tout à fait seule désormais. J'étais là. Nous allions affronter l'épreuve ensemble. À deux, nous avions, qui sait, une petite chance d'y parvenir. En tout cas, j'étais convaincue que beaucoup dépendait de moi, de ma force, de mon amour pour elle. Je ne devais pas flancher. C'était commode de se répéter ce mantra. Cela m'évitait d'être dévorée par le chagrin, par la stupeur et par la haine. Il y avait des choses qui passaient avant. Il y avait Léa. Avec le recul, je sais que, sans le faire exprès, ma sœur m'a sauvée de passions trop tristes ou de bouillonnements trop amers. Il ne m'était pas permis. Quand je l'ai rejointe, je l'ai prise dans mes bras. Finalement, je me suis autorisée cette tendresse, ou plutôt, ça s'est imposé, ça a débordé. Léa s'est laissée faire, mais il m'a semblé que c'était comme enlacer un arbre. Elle ne m'a pas rendu mon accolade, gardant ses bras le long du corps. Cette apathie n'était pas une hostilité. Elle disait que la vie s'était retirée d'elle, la possibilité d'un mouvement, d'un sentiment. J'ai mieux mesuré la violence qu'elle avait subie, qu'elle a laissée exsangue, inconsistante. J'ai serré Léa plus fort contre moi.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage.
Philippe Besson décrit ici avec sensibilité la stupéfaction, le coup d'arrêt porté dans la vie de Léa et son frère par l'assassinat de leur mère. Le romancier nous tend un miroir dans lequel se reflète, hélas, notre société. Rappelons que 122 femmes sont mortes en France en 2022, la plupart d'entre elles sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Cette lecture a été préparée et interprétée par Annie et Guylaine. Claude Michel a assuré le montage de l'émission. Pour accompagner nos voix, vous avez entendu des extraits du Requiem de Mozart par l'Orchestre National de France et de la chanson de Big Flo et Oli, Dommage. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission
en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre. Rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission.